Voilà. Alors,
vous n'avez pas de papier. Je vous fournis un petit document. Bien. Alors, je vous ai mis un peu plus que le texte que nous allons considérer. C'était pour vous donner un peu le contexte. Donc, c'est un texte qui se situe dans l'Évangile selon Matthieu, dans cette grande fresque qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Donc, c'est en fait une colline près du lac de Galilée. Ça commence par les béatitudes, ce très beau texte qui dit en 8 propositions un bonheur auquel les disciples de Dieu sont invités. Ensuite, il y a quelques paroles que l'on entend souvent pendant les cultes, c'est être la lumière pour le monde, le sel de la terre. Et puis, on en vient au rapport justement entre Jésus et la loi. Quand vous lisez la loi et les prophètes, c'est en fait l'Ancien Testament dans sa composante actuelle. La loi, c'est-à-dire la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, et puis les prophètes, ce sont les livres qui viennent ensuite, Josué, Juge, Samuel, etc. Donc, je vous ai mis le premier paragraphe de ce grand passage sur le rapport que Jésus entretient avec la loi pour vous donner la fameuse clé de lecture que Philippe nous a rappelé tout à l'heure. Alors, si quelqu'un peut-être pouvait lire le texte en français, c'est soit dans le papier que je vous ai donné, c'est une traduction Louis II, soit dans l'édition qui est la sienne. Oui, de 17 à 26. Voilà. Dans l'édition qui vous convient le mieux, dans la traduction qui vous convient. Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que ça peut être bien d'entendre autre chose que ce qu'il y a sur le texte. Oui, d'accord, Catherine.
Pas 21, vous commencez à 17.
17, s'il vous plaît, oui.
Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre tourneront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toute chose. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire le même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire le même sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Après, ça s'appelle enseignement au sujet de la colère. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Si tu es en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, c'est la vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier cent.
Voilà. Traduction.
Non, c'est la Bible en français courant. Ah, ouais. Pour avoir les Maccabées.
D'accord. Bien. Donc, il y a cette première partie du verset 17 à 20. Hein, vous avez compris, c'est un peu la clé herméneutique, c'est ce qui permet de comprendre comment la suite va fonctionner. Donc, ce passage, c'est ce qu'on appelle les antithèses de Jésus. Hein, 6 fois, Jésus va dire « vous avez entendu que », ajoutant « mais moi je vous dis que ». Donc, il y a synthèse et antithèse. Et il y a cette formule unique dans les évangiles qui est ego de lego humine. Mais moi, je vous dis. On va revenir sur cette formule. Donc, effectivement, il y a des parallèles entre ce texte et puis les autres évangiles. On peut, effectivement, si vous le souhaitez, comparer ce passage de Matthieu avec l'évangile de Luc au chapitre 12, les versets 57 et 59, par rapport à ceux qui vont nous intéresser. Et puis, chez Marc, on peut aussi comparer avec Marc, donc chapitre 9, versets 43 à 48. Et on peut regarder aussi du côté de Marc 10, les versets 11 à 12. Ça donne une indication sur, sur la façon dont une parole de Jésus est traitée dans les différents évangiles. Et on voit le développement qui est apporté par chaque évangéliste. Je trouve que c'est toujours intéressant à titre personnel de faire un peu cette comparaison, car ça nous permet toujours de nous rappeler que chaque évangile est écrit pour un public bien spécifique, et ça nous permet de retrouver un peu le public qui est derrière. Et quand nous parlions tout à l'heure des différentes images de Dieu, eh bien on pourrait se dire aussi qu'il y a différentes images de Jésus, et plus que cela, différentes images du message de Jésus, différentes images de la théologie ou de la prédication de Jésus. Et on va avoir l'occasion d'apprécier l'évangile, enfin, le Jésus de chez Matthieu pour découvrir que finalement il nous propose une façon d'être chrétien qui est peut-être un petit peu différente de ce que nous, protestants qui aimons bien Paul et Luc, penserions de prime abord. Il y a un rapport à la loi qui est un peu spécifique chez Matthieu et qui va conduire à une éthique et à une façon d'être chrétien un peu spécifique. Bien, le verset 17 est ultra connu. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Est-ce que ça, on pourrait le dire autrement? Paul le dit autrement. Vous voulez quelque chose? C'est en fait la question de ne pas s'attacher à la lettre, mais à l'esprit. C'est-à-dire que finalement, quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir, c'est-à-dire en fait, le verbe kataluo, c'est le fait de nous délier. C'est comme si, jusqu'à présent, le peuple était lié à la loi. Et vous savez à quel point c'est vrai, puisque on dit que dans la pratique juive, il faut mettre des morceaux de la Torah dans des petites boîtes que l'on lit sur la tête, sur le bras. Et les tefilines, finalement, c'est une façon d'être lié à la loi de Moïse. Et Jésus met bien en garde en disant « Moi, je ne suis pas venu pour vous délier de cela. Donc, je ne suis pas venu pour remettre en cause votre pratique religieuse. Je suis venu pour l'accomplir. » Pléromai, c'est très intéressant, c'est l'idée de plénitude. C'est en fait pour lui donner toute sa mesure. C'est pour l'accomplir, c'est pour la rendre universelle selon l'intuition primitive. Au fond, vous voyez, c'est comme si un projet était stoppé en cours de route. Jésus est là pour continuer le déroulement du projet. Et donc, il n'est pas venu pour mettre la distance entre la loi et nous, il est venu au contraire pour que la loi puisse donner toute sa mesure, toute son étendue. Retrouver l'esprit de la loi. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, le iota, c'est la plus petite des lettres de l'alphabet grec. Enfin, je dis ça, mais c'est plutôt comme ça. Il y a des petits traits, par exemple, des petits traits qui vont en dessous. C'est pour dire qu'il n'y a même pas les petits traits critique. Le iota souscrit, même la souscription du iota, on ne l'enlèvera pas. C'est vraiment pour dire qu'il n'est pas là pour effacer quoi que ce soit. Il n'est pas là pour supprimer quoi que ce soit, il est là pour redonner sens à tout cela. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dans ce verset, en général, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est qu'on se dit, bon, classiquement, il y a une opposition entre deux façons de se tenir par rapport à la loi. Il y a une population qui va être encouragée, une population qui va être condamnée. Il y a d'un côté ceux qui font comme si certains commandements n'existaient pas, et donc ils ne vont pas les respecter. Et puis il y a d'autres qui, eux, au contraire, observent et enseignent à observer. Et on se dit, eh bien voilà, c'est un peu comme plus tard avec les boucs et les brebis, il y en a qui vont être au royaume des cieux, et puis d'autres qui vont en être exclus. Le texte ne parle pas d'exclusion, il dit que finalement, tout le monde sera quand même dans le royaume des cieux. Certains seront appelés grands, d'autres petits, mais ce qui est étonnant par rapport à l'imagerie populaire, c'est que tout le monde a sa place dans le royaume des cieux. Alors effectivement, tout le monde ne prend pas la même place du coup, mais il n'empêche que tout le monde y a accès. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et au fond, c'est l'argument qui peut, plus que le moins, peut suffisamment en fait. C'est-à-dire que ceux qui sont visés ici, ce sont les scribes et les pharisiens qui sont attachés à la lettre. Et si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, mais on ne peut pas faire pire qu'eux. Oui. C'est-à-dire que finalement, non mais ça se joue en deux temps, c'est un billard à deux bandes. La première bande, c'est, de toute façon, si vous effacez quelques bouts de la loi, vous aurez quand même votre place dans le royaume des cieux, simplement, vous ne serez pas appelé grand. La deuxième bande, c'est, si vous ne surpassez pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais les scribes et les pharisiens, déjà, ne gomment pas les lettres. Voilà. Donc, ils sont déjà dans le royaume des cieux. Donc, ce que l'auteur veut dire, c'est que simplement, ici, on désigne des personnes qui, par leur justice, ne vont pas pouvoir recevoir les fruits de la justice. Je m'explique. L'évangile de Matthieu, on l'avait vu, ne fonctionne pas sur il y a aujourd'hui le temps de l'homme et puis demain le temps de Dieu. Ce que l'évangile essaie d'expliquer, c'est que le temps de Dieu fait déjà irruption d'ores et déjà dans le temps de l'homme. Et que du coup, la justice, c'est une justice dont on tire les fruits dès à présent. Et on tire les fruits dès à présent en payant en quelque sorte les conséquences de ce que l'on fait, mais aussi en recevant les bénéfices de ce que l'on fait. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire que si vous vous contentez de suivre la lettre sans trouver l'esprit, eh bien ça veut dire que vous ne vous mettez pas dans la perspective du pléromaï, de l'accomplissement. Et si vous n'accomplissez pas, si vous ne donnez pas toute la mesure à la loi, donc toute la mesure à la justice, eh bien profondément, vous ne recevez pas le bénéfice d'une justice accomplie dans sa totalité. C'est-à-dire que vous êtes en sous-régime. Les pharisiens, les scribes, sont en sous-régime par rapport à la justice. Et donc l'expression « vous n'entrerez point dans le royaume des cieux », ce n'est pas une façon de dire que vous serez exclus d'un paradis, parce qu'il n'y a pas en fait de paradis au sens géographique du terme, simplement, vous n'aurez pas votre vie en plénitude d'ores et déjà. C'est un peu ce qui est écrit sur le dessus de la porte dans l'oratoire, c'est un verset biblique. le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est du présent, en fait. C'est-à-dire que si on est dans cette dynamique, dans ce rapport à la loi de Jésus-Christ, eh bien, on est d'ores et déjà en train de profiter de cette plénitude. Si on se contente du stade scribe et pharisien, c'est-à-dire qu'on garde jalousement la loi, mais on ne l'applique pas, eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas tout le bénéfice, on n'a pas la vie éternelle. Je le redis comme ça a dû déjà m'arriver, je prends l'image de la vie conjugale. Si vous appliquez le code civil, eh bien, vous n'avez pas encore construit le bonheur de votre couple. C'est-à-dire que vous êtes en règle par rapport à la loi, mais vous n'avez pas été l'artisan du bonheur de l'autre. Si vous contentez d'appliquer la loi dans votre vie conjugale, ça risque d'être quand même assez triste et monotone. Si vous ne mettez pas un peu de fleurs de temps en temps, ça risque de ne pas être très joyeux tout le temps. Bien. Donc voilà un peu pour l'esprit. L'idée de Jésus, c'est on va élargir l'espace de la loi. On va lui donner plus d'importance, plus de mesures. Et on prend le cas concret qui nous intéresse parce qu'on parle de réconciliation. Et en fait, on parle aussi un peu de pardon, mais ça ne se voit pas bien dans la traduction française. Alors, vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne tueras point. Alors, où est-ce qu'on l'a entendu ça, d'après vous ? Dans les 10 commandements. Alors, soit dans Exode 20, au chapitre 20, verset 13, soit dans le Deutéronome, vous savez qu'il y a les deux versions, au chapitre 5, verset 18. D'ailleurs, ce texte qui est écrit en grec hein, est plus proche de la version des Septante de Deutéronome que de l'Exode. Donc, le verbe tuer, en fait, c'est un verbe qui désigne le meurtre, l'assassinat. C'est-à-dire que c'est pas simplement, c'est pas le fait de tuer quelqu'un parce qu'on l'aurait renversé par inadvertance en voiture, c'est le fait de commettre un crime, à la limite avec préméditation. Hein, c'est le désir de retirer la vie à quelqu'un. Bon. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. C'est d'être conduit au tribunal. Historiquement, quand on commettait un crime, on était traduit devant ce qu'on appelait le petit Sanhédrin, qui était composé de 23 personnes. Et, à votre avis, pourquoi est-ce que on dit celui qui tuera méritera d'être puni par les juges. Pourquoi est-ce que justement on n'est pas tout de suite dans une logique de l'amour du prochain qui est supérieur à la justice, etc.
Parce qu'il y a la loi, l'institution, la loi qui elle doit punir.
Et alors pourquoi la loi doit punir? Pourquoi est-ce que la loi est nécessaire et pourquoi est-ce que finalement elle est maintenue par Jésus?
Mais
si quelqu'un tue, il est passé à l'acte. Pourquoi celui-là doit passer après devant le tribunal? Pourquoi la société doit le mettre devant le tribunal?
Il y a la justice de l'autre.
Oui, d'accord, mais si vous me dites qu'il faut le faire passer devant la justice pour le juger, c'est un peu une tautologie. C'est-à-dire qu'il faut le mettre devant le tribunal pour qu'il soit jugé. Pourquoi il faut le mettre devant le tribunal? C'est parce que c'est la justice, oui.
Alors, protégé
de quoi?
Des plus forts, de l'agression.
Sinon, chacun fait ce qu'il soit même. C'est la loi de tous contre tous.
Je me rappelle bien la Bible, il me semble qu'on est quand même dans une logique différente. Parce qu'on est encore, et on le voit encore à l'heure actuelle, et c'est pas si loin que ça demain. Dans une logique, j'allais dire, de la vengeance immédiate. On voit dans les bandes, on tue un gars, et puis l'autre bande, tu comme ça.
Voilà, mais ça, c'est pas une logique d'autrefois, hein. C'est une logique qui a encore cours aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Ah, oui.
C'est ça.
Le jugement permet une mise à distance, de sortir, j'allais dire, d'une logique de paroisse, d'une logique de...
Donc, c'est à la fois mettre un terme à la logique de vengeance. C'est exactement la raison pour laquelle, lorsque Caïn tue son frère Abel, il reçoit une marque sur le front et qu'on le protège. Parce que si jamais quelqu'un veut venger Abel en tuant Caïn, forcément, les amis de Caïn vont vouloir venger Caïn à son tour. Et c'est la vendetta et c'est le cercle vicieux. Donc, le premier intérêt de la justice, c'est... de mettre un terme au cycle de la violence. Effectivement, on peut dire qu'il y a aussi un caractère préventif à la loi, c'est de dissuader quelqu'un de commettre un délit ou un crime, sachant qu'il va être puni. Mais au pire, le deuxième aspect, ce n'est pas forcément le volet répressif, c'est le volet, mettons un terme à cette logique de la vengeance, de la violence. Et on va voir que, en fait, cela, Jésus va le conserver. Parce que dans notre parcours du pardon, il est important de se rappeler que c'est à la condition qu'il y ait justice que le pardon est possible. C'est-à-dire qu'on avait vu ça autrefois. Il faut que les torts soient énoncés. Il faut qu'il y ait quelque chose de répréhensible, en fait, pour qu'il puisse y avoir pardon. Et si on n'a pas été capable de formuler le délit ou le crime, on est infichu de pouvoir pardonner. On ne peut pardonner que quelque chose qui a été explicité, verbalisé, en quelque sorte. Et la justice est là pour dire le droit, et donc pour repérer les torts, repérer les crimes. Et c'est parce que cela est exprimé que le pardon est possible. Pas toujours, on ne réussit pas toujours, mais le pardon est possible. Alors, ensuite, à partir de là, Jésus s'exprime. Et donc, il s'exprime avec la formule que vous avez sur votre feuille. Ego de l'ego humine. Comme ça, vous le retrouvez sur votre traduction en face. Donc, là, il y a moi. Là, c'est le verbe dire. Et puis, là, c'est à vous. Le problème, c'est cette particule ici. C'est, en fait, une petite particule qui est un peu compliquée à traduire. Parce que c'est comme ces petits mots de liaison, ces petits mots relatifs. Ils peuvent avoir plusieurs sens différents. Et au fond, il peut en avoir trois ici. Et du coup, ça peut exprimer trois sens différents. Le premier sens, ça serait l'opposition fortement marquée. Et c'est souvent celle que l'on a dans les traductions. Ce petit mot « D », on pourrait éventuellement le traduire par « mais moi ». Donc, vous avez entendu quelque chose, mais moi, je vais vous dire autre chose. Et ça, c'est une opposition. On pourrait quasiment s'attendre à ce qu'ils disent le contraire. En fait, quand on regarde la suite du texte, on voit qu'il ne va pas à l'encontre de ce qui vient d'être dit. Il ne s'oppose pas. Il ne va pas dire l'inverse. Bon. La deuxième, c'est pas une opposition. La deuxième façon de traduire, c'est pas une opposition, c'est une juxtaposition. On pourrait éventuellement le traduire par « et moi ». Donc, ça serait une juxtaposition. Ça serait « je rajoute mon petit grain de sel ». C'est-à-dire que je viens apporter un complément. Et après tout, on pourrait se dire, ça corrobore ce qui a été dit plus tôt. Je viens accomplir. C'est comme s'il manquait quelque chose.
Perfectionne.
Je viens le perfectionner en y apportant soit mon intelligence, soit ma compréhension, mais en y apportant quelque chose qui vous manquait jusque-là. comme s'il manquait la pièce du puzzle, en fait. Ouais. Donc, on pourrait éventuellement le traduire comme ça aussi. Il y a une troisième façon de le traduire, et c'est vers celle-là que je vais plutôt vous orienter. Ça pourrait se traduire éventuellement par « hors moi ». Et dans ce cas-là, on n'est plus dans une opposition de fond, comme dans le « mais moi », on est en fait dans une radicalisation. Et je pense que c'est plutôt cette troisième option que l'on peut retenir, parce que ça me semble être la meilleure solution. C'est, comme ça que l'on peut comprendre la position de Jésus par rapport à la loi et aux prophètes. Il va radicaliser. Et c'est en ce sens qu'on peut comprendre « je viens accomplir » au sens de donner toute sa mesure. C'est que jusqu'à présent, la loi, elle n'allait pas jusqu'au bout de ses capacités. Eh bien, moi, je lui donne le souffle nécessaire pour qu'elle aille jusqu'au bout de son projet, jusqu'au bout du projet de Dieu. Donc, je ne rajoute rien. Donc, ce n'est pas une juxtaposition. Ça ne va pas en sens contraire. Donc, ce n'est pas une opposition. C'est une radicalisation. C'est qu'en fait, c'est comme si je supprimais les digues et le courant peut passer, quoi. La marée peut monter et remplir toute la plage. Bon, je vous dis ça peut-être un peu rapidement, mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, en fait. C'est le moment de ne pas être d'accord. Oui, mais c'est un perfectionnement qui... Enfin, ce qui est intéressant... Oui, c'est un perfectionnement, mais... Jésus n'ajoute pas quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que la loi était parfaite au départ. C'est-à-dire qu'en fait, on avait tout à notre disposition pour accomplir la loi. Vous voyez, c'est important parce que souvent, on a l'idée d'un Dieu qui en garde toujours un peu sous le coude, un peu pour nous infantiliser. Et au fond, c'est un peu ça, des fois, vous voyez, l'histoire du péché originel. C'est comme s'il nous manquait quelque chose pour être parfait. Et en fait, les textes bibliques propose une anthropologie bien différente. C'est une anthropologie où l'homme a tout pour réussir sa vie. Si ce n'est que parfois il en est un peu empêché parce que de mauvaises habitudes, de mauvais plis, Alain Ouzio dirait c'est un peu comme du bois courbe. Les évangiles nous parlent de nous comme d'être parfois un peu aveugles ou un peu sourds ou un peu estropiés, boiteux, etc. Bref, on se bride. Et le travail de Jésus, c'est de nous débrider. Voilà. Donc...
Je pense qu'il y a une... c'est comme s'il y avait une dimension d'appropriation personnelle.
Oui.
Par exemple, moi, je ne sais pas, vous avez un règlement. On le respecte. Mais les dimensions autres, les dimensions qu'à partir de la compréhension que l'on en a, de le faire, il me semble que c'est quelque chose de cet ordre-là qui se passe.
Alors ça va se jouer effectivement dans les versets qui suivent. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, ça ne se sent pas bien, mais après, dans les deux exemples qui sont finalement assez grotesques, ça va être le fait que, justement, il met la loi à notre hauteur.
Il y a quand même quelque chose un peu... vous dites que c'est le moment de ne pas être d'accord, mais c'est peut-être une question de vocabulaire, mais l'association de loi et de radical, ça n'évoque pas beaucoup la liberté. Voilà. Et en fait, c'est quand même quelque chose qu'on entend, notamment dans ce passage, il y a beaucoup de questions de loi, du respect de la loi, je viens entériner la loi des anciens, en fait, aussi. C'est pas toujours ce que dit Jésus partout, d'ailleurs, je pense que c'est... C'est un passage particulier. Il n'est pas toujours du côté de la loi, du respect, enfin peut-être du respect de la lettre. C'est justement
il est du côté du respect de l'esprit, mais il n'est pas du côté des anciens et de la tradition.
Là, c'est plus surprenant. Et c'est vrai que
Alors,
c'est radicalisation.
Dans ce cas-là, au lieu de radicalisation, pensez à universalisation. Mais radical, c'était une façon de dire que... enfin, souvent, c'est quand même le terme de radicalisation qui est utilisé dans le rapport que Jésus entretient avec la loi dans l'évangile de Matthieu, en l'occurrence, parce que c'est l'idée qu'il y a une exigence folle. Et une exigence à laquelle, en fait, on ne peut pas se soumettre parce qu'elle est au-delà de nos capacités. Mais c'est là que la liberté intervient. Pour faire bref, en fait, il y a deux façons d'aborder le sermon sur la montagne. Il y a la version luthérienne et puis la version réformée. Alors moi, je vous présente plutôt la version réformée, avec Calvin. Mais... bon, la loi, on l'a dit tout à l'heure, ça sert à réguler. Donc, le premier usage de la loi, c'est l'usage civil. Code de la route, code civil, code du commerce, etc. Donc ça, c'est pour qu'il y ait une sorte d'harmonie au sein de la société. Le deuxième usage, c'est l'usage luthérien, c'est l'usage pédagogique. Pourquoi ? Parce que, bon, mais si je vous l'avais dit, parce que, en fait, ici à l'oratoire, dans notre liturgie, on prend l'usage pédagogique. C'est-à-dire qu'on lit la loi comme instrument de mesure entre ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on a fait effectivement. Donc la pédagogie, c'est de nous montrer à quel point on est pécheur, et donc à quel point on a besoin de l'aide de Dieu. Et donc, vous avez raison, de ce point de vue-là, la loi, elle peut être comprise comme justement le fait qu'on a zéro degré de liberté. C'est-à-dire que, comme le disait Paul, enclin au mal, voilà. Donc, en revanche, le troisième usage de la loi, qui est l'usage de Calvin, c'est l'usage éthique. Et donc, si on voulait avoir un usage liturgique de ce troisième usage, il faudrait que la loi, on la déplace dans le culte. C'est-à-dire qu'on commencerait par se dire, bon, effectivement, l'homme a besoin d'aide. Donc, un, en repentance, on demande l'aide de Dieu pour gagner en humanité, pour qu'il accomplisse notre humanité. Deuxième temps, ben justement, c'est la grâce. C'est que Dieu, précisément, dans sa bienveillance, parce que Dieu nous veut du bien, il vient à notre secours et donc il nous relève dans ce site. Et puis trois, il y aurait justement la loi, non pas accusatrice, en disant, ben voilà, t'as pas encore fait ce qu'il fallait faire, mais la loi comme, voilà ce que Dieu nous rend capable de faire. Et au fond, la loi n'est plus un chemin pour gagner son salut, mais un horizon. Voilà un bonheur possible. Et puis maintenant, tu ferais ton chemin, tu bâtis en fonction de ce que tu souhaites par rapport à cet horizon-là. Et si vous regardez le décalogue, il n'est pas construit sur des verbes à l'impératif, mais sur des verbes au futur. Et au fond, ça trace quelque chose vers lequel on se dirige avec l'aide de Dieu. Alain Ouzio, puisqu'on parlait de lui, je ne crois pas que je cite trop souvent quand même, mais voilà, après tout, il n'y a pas de raison non plus de s'en priver. Il a repris le décalogue en disant, en faisant dire à Dieu, je te le promets, un jour tu ne tueras plus, ou voilà, tu ne seras plus l'objet de tes désirs, de tes pulsions, etc. Vous voyez, c'est une façon de décliner la première phrase du décalogue, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays de servitude ». Au fond, 10 paroles pour rester libre. Et la loi, c'est un chemin de liberté, c'est une pédagogie de la liberté. C'est-à-dire que la loi, c'est ce qui nous permet de rester libre par rapport à ce qui est notre pré-humanité. Qu'est-ce qui fait qu'un humain est un humain ? C'est qu'il a ses gènes biologiques, qu'il existe dans le regard de l'autre, qu'il accède à une humanité. Donc c'est un animal qui est attiré à la sphère humaine par un autre et qui ensuite est capable de certains accomplissements. Et cette capacité d'accomplir certaines choses, ben, c'est dans le registre de la liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas la liste des choses qu'il faut faire. On nous dit, allez dans ce sens-là, et puis construisez la vie qui va avec, en fait. Et c'est toute la différence entre la morale et l'éthique. On va y revenir après, puisqu'en fait, c'est de ça dont il est question dans ce texte. Oui, alors qu'en fait, la loi, c'est ce qui doit tout le temps être dépassé. C'est-à-dire que la loi, en quelque sorte, ça devrait être toujours le minimum vital. C'est-à-dire que c'est un peu comme le corps humain. Il obéit à certaines lois physiologiques qui sont gérées par le bulbe. Mais si on fait fonctionner que le bulbe, c'est-à-dire la respiration, le flux sanguin, etc., on n'a encore rien fait, quoi. Oui. Enfin, il y a des animaux qui sont plus vivaces que ça. Quoi.
Oui.
Les fonctions vitales, oui.
Oui. On n'évolue pas.
Même pendant son sommeil, on rêve et on évolue. Oui. Mais c'est parce qu'on a une représentation de soi-même aussi. Bien, donc, pourquoi est-ce que je dis que ça radicalise? Parce que, voyez, on part de l'impératif « tu ne tueras point », qui est d'ailleurs pas un impératif, mais un futur, à la question de l'insulte. Vous voyez, c'est quand même assez radical, cette histoire. Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc, vous voyez, c'est, il arrive à celui qui insulte la même chose qu'à celui qui assassine. C'est le même traitement. Oui, ben c'est la partie suivante, en fait. Hein. C'est la partie suivante. Mais en fait, c'est la même logique. Alors, c'est... si vous dites que c'est un péché capital, je serais prêt à vous croire, mais bon, voilà. Ça veut dire peine de mort, c'est ça? Ouais. Bah, c'est ça, capital. Hein. Sinon, c'est véniel. Les péchés capitaux, c'est... C'est pas de paradis. Alors que les péchés véniels, bon, c'est rattrapable avec certaines pratiques. Mais effectivement, hein, vous tuer, c'est pareil que d'être gourmand. Hein, c'est interdit. Ah ben c'est le mal absolu. Hein. C'est capital. Non mais c'est à la fois capital, péché absolu, radical, le mal absolu, degré zéro du mal. Puis d'un côté, c'est pas biblique, quoi. Enfin, voilà. Donc faut rester calme aussi.
Mais...
Oui, ouais, c'est une construction catéchétique de l'Église à un moment donné pour régler la vie de ses administrés. Hein. Voilà. C'est idéal pour vous infantiliser. C'est ce que dit Paul. Ouais. On ne peut pas faire autrement. Alors, ouais. Et Luther disait, bah, plus je pêche, plus je suis pardonné.
Voilà.
Voilà. Ouais. Pour Luther, je ne sais pas. Beaucoup l'ont dit. Mais les mystiques le disent, en fait. Bien. Alors... Exactement. Cette histoire de la colère contre les frères, contre le frère, il ne faut pas penser que c'est une invention de Jésus. À la fois Jésus radicalise, mais il n'est pas le seul à radicaliser. On a trouvé à Qumran, dans la règle de Qumran, des éléments qui vont dans ce sens. Par exemple, dans la colonne 6, ligne 25, je vous donne la référence. Donc c'est si vous prenez les intertestamentaires, c'est la règle de Qumran. Donc c'est 26, verset 25. Je vous le cite. Que l'on ne parle point à son frère avec colère, ou en grondant, ou avec impatience. Et puis un peu plus loin, colonne 7, c'est ligne 8. Mais après, c'est encore pire. Qui gardera rancune contre son prochain injustement sera puni de 6 mois. Donc c'est sa deuxième partie. Donc, vous voyez, le fait d'avoir une dent contre son prochain, contre son frère, c'est passible de la prison. Donc en fait, la question du rapport social, de la colère, est quelque chose qui est présent dans le judaïsme ambiant à l'époque de Jésus. Donc, on a deux expressions qui sont traduites comme on peut, hein, parce que c'est a priori des transcriptions de l'araméen. Raka, par exemple, on pense que ça vient du Talmud, c'est Raika, qui veut dire imbécile, fou, insensé. Ouais, c'est ça. En quelque sorte, on pourrait imaginer que Rakaï, ça vient de là. Ouais. Les commentateurs disent que insensé, c'est un peu plus fort que Raka. Donc Raka, c'est une translittération. Et en revanche, insensé, là dans le grec, vous voyez, c'est moré. Et on peut. Alors certains pensent que c'est une transcription grecque aussi d'un mot araméen. En tous les cas, ils considèrent que la graduation est un peu plus haute. Bon. Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse une telle radicalisation ?
Parce qu'après, on va lui renvoyer
le centuple. Oui, mais.
C'est l'escalade.
D'accord, mais.
Arrêter l'escalade.
Mais là, quand même, Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui dit insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Le feu de la Géhenne, c'est l'enfer, hein, quasiment. C'est le lieu dont on ressort en fumée, quoi. Qu'est-ce qui justifie cela, d'après vous ? Comment est-ce que ça peut se comprendre, ça ? Parce que, je veux dire, pour quelqu'un...
entraîne la colère,
entraîne
la date... On va lui renvoyer la suite.
Non, mais c'est une façon... Quand on est en colère, c'est vrai, hein.
Quand on prononce cette insulte, c'est ça ?
Oui, je pense. C'est pas de dire, c'est un petit peu comme si on faisait, pas le jugement dernier, mais c'est un petit peu comme si on se mettait
le dernier mot.
À la place de Dieu, c'est un bien grand mot, mais je veux dire,
je crois que c'est peut-être le moment de rappeler les sens, de dire tu es un idiot, tu es un imbécile. Bon, c'est peut-être pas très sympa à entendre, mais dans l'énervement d'une discussion un tout petit peu vive, bon, disons que c'est des choses qui est arrivée. D'accuser quelqu'un d'être insensé ou lui dire tu es insensé, c'est pas du tout la même chose. Insensé, c'est quelque chose qui a perdu sens. Or, je crois que le travail qu'on fait ici, c'est d'essayer, si c'est possible, de donner davantage de sens. C'est donc.
Alors là, la proposition, c'est de dire, c'est qu'en fait, on injecte de la passion dans ce qui a été proféré, et du coup, ça va à l'encontre de la justice, qui, elle, devrait être froide.
Voilà. Quand on passe devant le juge, normalement, il y a un jugement qui est donné sans passion. Tandis que nous, on est passionné, on voit les choses autrement.
Ouais.
Oui, mais celui qui est traité d'insensé, il va répondre par quelque chose d'encore pire.
Oui. Donc c'est ça, éviter c'est l'escalade.
Il faut éviter l'escalade.
Mais on l'évite de façon quand même un peu radicale, là, pour le coup. Hein. Oui.
Dans la Bible de Jésus,
oui.
J'ai le mot renégat.
Oui.
D'insensé.
Oui.
Renégat,
c'est grave. Oui. Oui, ça peut être un traître aussi.
C'est des choses qu'on
Mais j'allais dire, à la limite, c'est pas tant dans le sens exact du mot que les choses se jouent. C'est dans le fait que, à une insulte, on réponde par une exécution capitale. Et on pourrait dire que c'est un poil disproportionné quand même. C'est un peu comme si quelqu'un était contre la Trinité et qu'il finissait au bûcher, quoi. Ça se fait... Enfin, quelqu'un ferait ça, on serait pas d'accord quand même. Ah oui, ça c'est. Attendez, juste, oui. C'était. Il n'y a pas de gradation. Ouais. Mais vous voyez le problème. Du coup, ce qui arrive, c'est que, en fait, on élimine tout le monde au fur et à mesure. Parce que l'intentionnalité, elle est peut-être la même, même quand il n'y a pas le passage à l'acte finalement. C'est ce qui se passe d'ailleurs au sujet de l'adultère ensuite. C'est que même quand il n'y a pas de passage à l'acte, le seul fait de désirer permet d'être sous le coup de la condamnation. Mais en fait, l'intuition, elle est quand même là. C'est bien par rapport à... Enfin, c'est bien autre chose que le fait, de toute façon. Parce que les faits ne sont pas de la même nature. Et pourtant, il y a une analogie. Alors moi, je pense que l'analogie, il faut bien la voir justement... Enfin, il faut essayer de trouver la relation. La relation entre le meurtre et l'insulte, eh bien, c'est que matériellement, il y a une distinction, mais symboliquement, c'est la même chose, en fait. Et le texte joue sur le registre du symbolique. Quand on assassine quelqu'un, on le prive de vie, très bien. Mais au fond, l'insulte, c'est quoi? C'est mettre, ranger quelqu'un dans une catégorie, disons. C'est en faire un objet, à vrai dire. Sur le plan psychanalytique, c'est une objectivation, une réification de res, la chose en latin. Et finalement, quand on insulte quelqu'un, c'est-à-dire qu'on l'empêche d'être un sujet, pour continuer la métaphore objectivation de la psychanalyse, si on l'empêche d'être un sujet, qu'on n'en fait plus qu'une chose, eh bien, ça revient à le tuer, symboliquement. Mais vous savez, comme ça, c'est difficile de le comprendre. Mais un professeur qui dit à son élève, de toute façon, tu n'es qu'un imbécile, en fait, si c'est répété quelques fois, l'enfant va devenir juste un imbécile. Parce que l'enfant intègre la parole de l'adulte comme une parole qui fait sens, et donc, il considère qu'il est limité à ça. De même que quand les parents disent « Attention, tu vas tomber, je t'assure, tu vas tomber », l'enfant finit par tomber parce que finalement, il accomplit la parole qui lui est adressée. Oui, bien sûr, les paroles peuvent tuer. Bien sûr que les paroles peuvent tuer. De même qu'elles peuvent faire vivre. D'ailleurs, c'est l'épître de Jacques qui dit que la langue, c'est un petit gouvernail qui mène de grands bateaux, etc. Enfin, bon. Mais précisément, l'insulte, c'est le fait de mettre quelqu'un en prison, en fait. On l'enferme dans un stéréotype, finalement. Et... souvent, par exemple, le racisme, ça fonctionne là-dessus. Quelle que soit la forme du racisme ou de la xénophobie ou autre. Mais vous voyez, les catégorisations, les femmes et la Bible, comme si comme si les femmes, c'était un genre indistinct. Comme si, finalement, tous les membres de la catégorie femme étaient semblables, identiques, copies conformes. En fait, quand on y prend garde, ce genre de classification, c'est quand même assez mortel. Après, il y a les blondes. Comme si, parce qu'on est blonde, on avait toujours les mêmes caractéristiques que les autres. Vous voyez ? Bon. Donc, il y a, cette radicalisation de Jésus, en fait, elle n'est pas là pour dire comment les choses vont se passer historiquement. Elle est là pour rendre attentif au fait que nous avons des comportements sociaux, notamment, qui sont extrêmement préjudiciables. Et qui, ah, c'est un peu ce que disait Anne, finalement, dans l'intentionnalité, produisent les mêmes effets, mais avec des méthodes ou des instruments différents. Mais finalement, en mettant en relation le meurtre, l'assassinat, avec l'insulte, eh bien, c'est une façon de dire que insulter quelqu'un peut provoquer non seulement la même chose, mais du coup, nous rendre coupables de la même chose. Et c'est vrai que c'est certainement utile les campagnes pour éviter que les enfants soient battus par leurs parents, les femmes par leurs maris, etc. Mais il y a des choses qui sont beaucoup moins visibles, qui est le harcèlement moral. Et forcément, ça laisse moins de traces physiques. Mais il peut y avoir des blessures profondes qui sont de cette nature-là. Et vous voyez, les évangiles fonctionnent sur ce principe-là. Quand on parle de la révélation, c'est pas simplement révéler qui est Dieu, c'est aussi révéler qui est l'homme et révéler quels sont les ressorts de l'homme. Je ne dis pas les ressorts de l'humanité, mais quels sont les ressorts de l'homme. Eh bien, l'homme est capable de certains accomplissements, il est aussi capable d'être inhumain. Et ici, on est là pour mettre en évidence cette capacité de l'homme à être inhumain, à être barbare pour les autres, en fait. Donc évidemment, ça nous semble grotesque. Et puis finalement, vous voyez, quand on y réfléchit, peut-être que c'est quand même exagéré, mais c'est le propre de cette pédagogie, de cette prédication. Les prédicateurs exagèrent toujours un peu pour bien faire comprendre. Mais en fait, il y a quelque chose de profondément juste. Mais c'est pour ce, vous avez tout à fait raison. C'est pour cela d'ailleurs que les choses sont présentées dans ce sens-là. C'est qu'on commence par tu ne commettras pas d'assassinat, tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas. Parce que justement, il y a cette intentionnalité. C'est fait de façon délibérée. Et donc, ensuite, l'insulte, ben, elle est dans le même registre. C'est une insulte délibérée, pas sous le coup de l'alcoolisme, etc. Mais voilà. Il y a. On peut prendre les choses dans l'autre sens également, et c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il y a une sorte de pédagogie de Jésus qui nous permet d'accéder à la loi, ou qui rend la loi, qui la met à notre hauteur. C'est qu'au fond, comment on fait pour ne pas tuer ? Bien sûr, ça semble simple, il suffit de ne pas avoir d'armes chez soi, etc. Mais en fait, peut-être qu'il y a une pédagogie des petits pas que Jésus met en place. Et au fond, pour ne pas tuer, on peut déjà commencer par essayer de ne pas insulter. Et ça, c'est à notre hauteur. Et de fil en aiguille, on peut réussir à ne pas tuer. Alors, après ce que je vous ai dit sur les femmes, je ne voudrais pas généraliser sur les hommes, mais moi, il me semble qu'il y a quand même chez les hommes, au sens viril du terme, cette pulsion latente, cette capacité à pouvoir assassiner, c'est-à-dire à pouvoir exercer la vengeance. C'est-à-dire que je pense que dans certaines situations, un homme est capable de se venger sur le coup. Enfin, je sais pas. Ouais. Le passage à l'acte. Est... Mais d'un autre côté, prenez les statistiques des suicides. Et je crois que c'est entre 3 et 4 fois plus de réussite chez les hommes. Ouais. Ah oui. Les femmes se loupent très souvent, en fait. Parce que les femmes utilisent souvent les médicaments. Les hommes utilisent souvent la corde. Ou les carabines. c'est-à-dire qu'il y a une radicalité aussi dans les pulsions viriles et qui fait que le passage à l'acte est... Voilà. Comment... Oui, alors après, voilà, comme je vous disais, il ne faut pas généraliser. Ceci pour dire que ça nous semble toujours très loin, cette idée de « tu n'assassineras pas ». Ça ne nous arrivera jamais d'assassiner quelqu'un.
Mais qu'en est-il par rapport à...
Mais en fait...
Vous pouvez raconter toujours par rapport à qui ne tuera point.
C'est-à-dire, par exemple, un conflit comment... militaire.
Oui, voilà.
Mais justement, enfin,
ouais,
ouais, comment les militaires se situent par rapport à cet impératif de ne pas tuer. Bon, évidemment, le mieux, c'est toujours de leur demander plutôt que à moi, mais il y a deux choses qui prévalent. La première, je vous en parle dans la situation de la France, par exemple, hein, république, démocratique. En attentif au fait qu'on est passé du ministère de la guerre au ministère de la défense. Et donc, on est dans une logique de défense et pas dans une logique d'attaque. Donc, il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est justement ne pas commettre de meurtre. En fait, c'est, j'allais dire, la ligne directrice des armées françaises. Il ne s'agit pas de commettre des meurtres, il s'agit de neutraliser l'adversaire. Alors, vous allez me dire, c'est un peu spécieux. Mais d'un autre côté, quand vous regardez... Non, mais si après on prend les statistiques... Si on prend les statistiques, maintenant, les conflits armés, mais il y a toujours trop de morts. Mais il n'y a plus de morts, en fait. Une embuscade, 7 morts. Mais Verdun, c'était combien de milliers de morts? Vous voyez, enfin, on n'est plus du tout dans les mêmes rapports. Donc, bien sûr qu'il y a eu un temps où la guerre, elle pouvait tomber sous le coup de ça, parce que non seulement on gagnait la victoire, et puis ensuite, on se servait, et on achevait, et puis on torturait si c'était nécessaire, pour le plaisir, hein, c'était le côté perverse. Là, oui, je crois que le terme neutralisé, bien sûr, ça peut prêter comme ça un peu à sourire, mais en fait, c'est vraiment dans cette perspective-là que les opérations militaires françaises sont montées, en fait.
Vous
pensez de
Ben
Laden, l'assassinat.
Il y avait un certain nombre d'hommes qui choisissaient d'être objecteurs de conscience, oui, puisque c'était permis,
oui,
par la loi.
Oui.
Donc, entre parenthèses, des pasteurs,
oui,
et des prêtres, parce,
oui,
qu'ils ne voulaient pas justement être confrontés,
ou, oui,
par conviction personnelle,
oui,
ils ne voulaient pas être confrontés,
oui,
au problème de tuer.
Oui.
Ça n'a pas toujours été permis,
d'accord,
par la loi. Moi, je connais des gens qui ont passé des années en dehors. C'est un monsieur qui passait tous les jours le long du mur de la prison,
mm-hmm,
et qui disait toujours, moi, je suis à l'abri, en tout cas, je ne ferai rien qui puisse me faire
rentrer
dans cet établissement. Et un jour, il est rentré chez lui, et sa fille était en train de se faire violer par un malfrat.
Mm-hmm.
Donc, je ne sais pas comment ça s'est produit, mm-hmm, et bien entendu, il a pris ce qu'il avait sous la main, il a tué le type, mmh, il a fait de la prison.
Bien sûr.
Donc je veux dire, il ne faut jamais. Extrême, mais il faut raconter ça, il vous verra ce qu'il vous en a raconté.
Oui, ouais, bien sûr. Donc, cette radicalisation, elle est aussi dans cette pédagogie qui est que ça peut très vite déraper, en fait.
Voilà.
Et donc. Prenons le mal à sa racine dans les petites choses du quotidien. On pourrait dire aujourd'hui les incivilités, etc. Souvenez-vous, je ne sais pas, il y a 4-5 ans, c'était la guerre Saint-Lazare, ça a explosé dans tous les sens. Émeute. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contrôle qui s'est mal passé. Parce qu'il y a un jeune qui a voulu se faire contrôler par quelqu'un, il lui a mal parlé et ça a dégénéré. C'était pour un problème de langage au départ. Il y a eu une sorte d'insulte et ça a explosé. Je ne sais pas si c'était Gare Saint-Lazare ou Gare du Nord. Enfin. Voilà. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc on est dans la logique, on va offrir quelque chose à Dieu. Et en fait, ce que dit Jésus, c'est que avant même de te préoccuper de Dieu, préoccupe-toi de ton prochain. Voilà. Ça rejoint évidemment les prophètes de l'Ancien Testament. Avec Dieu qui fait dire au peuple, j'en ai jusque-là de vos sacrifices, de tout ce merveilleux religieux que vous m'offrez, alors qu'il n'y a aucune justice sociale. Et là encore, c'est quelque chose qui n'est pas propre à Jésus, hein, à la fois dans l'Ancien Testament, c'est bien attesté. Et puis, on le trouve aussi dans le rabbinisme, hein, dans le traité Abbot. Donc, Abbot, c'est les pères. C'est le traité 2.14. Si vous avez ça chez vous, dans votre bibliothèque. Que l'honneur d'autrui te soit plus cher que le tien. Et ne sois pas enclin à la colère. Oui, il y a un vrai altruisme là. Il y a une vraie dépréoccupation de soi. Et ici, il y a une fois de plus l'idée selon laquelle le service du prochain prime sur le service de Dieu. Alors comment on peut comprendre ça? On peut se dire, Dieu peut toujours attendre. Dieu est éternel. Comme disait Jésus, des pauvres vous en avez tout le temps, moi vous m'avez pas tout le temps, donc profitez-en. Donc profitez de vos frères tant qu'ils sont là, ce qui est une parole de sagesse. Bon. La deuxième chose, qui me semble un peu plus théologique quand même, c'est que la bonté de Dieu, la bonté du Père Céleste, ne peut être reconnue et accueillie que dans la mesure où la relation au frère n'est pas altérée ou vrillée, etc. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans la logique de Jean. Si le frère que vous avez sous les yeux au bout du doigt, vous n'en prenez pas bien soin, vous ne l'aimez pas, qu'est-ce qui va se passer pour Dieu que vous ne voyez pas, quoi ? Si celui qui est tangible, vous n'en prenez pas soin, a fortiori, celui qui est loin des yeux va être extrêmement loin de votre cœur. Donc, c'est l'idée que concentrez-vous dans les petites choses pour réussir les grandes aussi. Et au fond, il y a à nouveau une pédagogie. C'est-à-dire que c'est reconnaître le petit autre qui va nous permettre de reconnaître le grand autre, l'altérité. C'est reconnaître l'autre comme un alter ego, comme un autre moi, qui permet, moi, de pouvoir être un sujet aussi. Sinon, on n'est que des pièces dans un échiquier. Et ce qui est intéressant, ce sont un peu les verbes qui sont employés. Le verbe réconcilier, donc vous le voyez au verset 24, c'est un verbe qui peut être un faux ami. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Au verset 24, vous avez dialégeti. Il y a là, geti. Et vous voyez, quand on ne fait pas de grec, dialégeti, on se dit, c'est le dialogue. Et donc, au fond, ce qu'on nous demande, c'est de dialoguer. Et vous voyez, c'est le bon sens. Bon, sauf qu'en fait, c'est le verbe dialasso. Et ça n'a pas de rapport avec le dialogue. C'est la racine allos, en fait, c'est autre. Et au fond, c'est un verbe qui veut dire changer, échanger. Et au fond, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là-dessus qu'on passe les 15 dernières minutes. C'est que la réconciliation, c'est pas simplement renouer. C'est que la réconciliation a un rapport avec le changement. Et au fond, c'est utile de revenir à ce terme grec, parce que la réconciliation va certes passer par le dialogue. Hein, on a dit qu'il faut une parole qui énonce ce qui s'est passé. Il faut une parole qui énonce les torts, qui formule le tort, qui rompt le silence. Donc il y a un acte de communication. Mais au fond, ce qui se trame depuis quelques mois sur la question du « mais on ne peut pas pardonner », enfin, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. En fait, ce n'est pas sur la question du pardon, je pense, que ça se jouait chez vous, c'était sur la question de la réconciliation. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a certaines réconciliations qui ne sont pas possibles? C'est parce que vous mettez dans la perspective d'un criminel qui reste un criminel. Et au fond, le travail de la réconciliation, c'est le travail du changement. Le travail de la réconciliation ne peut se faire qu'après la phase du pardon. C'est-à-dire qu'il faut pardonner pour pouvoir se réconcilier. Et c'est pour ça que d'ailleurs la réconciliation elle vient quasiment au terme de notre séquence sur le pardon. Voilà comment les choses se passent. On s'est dit que le pardon c'est ce qui à un moment donné mettait un terme justement dans cette logique de la vengeance. On a dit que le pardon c'était le fait d'abandonner, de lâcher quelque chose. Au fond, on abandonne ce désir de vouloir renvoyer à l'autre ce qu'il nous a. Donc, on lâche quelque chose. On met une distance. Et la deuxième chose, c'est dans la mesure où l'autre va pouvoir changer, c'est-à-dire qu'on lui donne une chance, une nouvelle vie. Pardonner, c'est donner l'occasion de pouvoir passer à autre chose. Je vous l'avais dit avec les mots de Paul Ricoeur qui sont les plus simples, je trouve. C'est de dire, tu vaux mieux que tes paroles, tu vaux mieux que tes actes, tu vaux mieux que tes gestes. Et donc, je te donne l'occasion de montrer autre chose de toi-même. Ça, c'est le pardon. Et la réconciliation, c'est de prendre acte de ce changement et de pouvoir renouer le fil du dialogue, renouer l'histoire et pouvoir être en mesure d'écrire l'histoire ensemble. Et cela, vous voyez, c'est passé du registre de la morale au registre de l'éthique. La morale, elle est en « tu ne tueras point ». Elle est en négatif. La morale, c'est une somme de choses qu'il ne faut pas faire pour rester au sein de l'humanité. Je pense que c'est un peu ce que le pasteur Daudet a dû vous dire dimanche. C'est-à-dire que finalement, Dieu donne des limites au sein desquelles nous pouvons préserver notre humanité. Et si on sort de ces limites-là, mais on devient l'animal sauvage, en quelque sorte. Bon. Mais comme on le disait, ça ne suffit pas pour vivre. Ce qu'il faut pour vivre, c'est l'éthique. C'est, au fond, ce que nous devons accomplir pour tisser le lien. Autrement dit, si je schématise un peu, quand on a deux personnes, la morale, c'est ce qui permet de garder les deux personnes en relation. Je caricature, c'est les bonnes manières. On respecte les bonnes manières, ça permet de ne pas choquer l'autre, et donc on reste en bon terme. L'éthique, c'est une spirale vertueuse. L'éthique, c'est ce qui va permettre de renforcer la relation, de la faire grandir, d'élever la relation. La morale, c'est ce qui stabilise. L'éthique, c'est ce qui fait avancer. La morale, c'est ce qui nous permet de rester avec un visage d'homme. L'éthique, c'est ce qui va nous permettre de rendre l'autre encore plus humain. L'éthique a à voir avec le bonheur, du coup. La morale a plutôt à voir avec la sécurité et la paix. Ça caricature un peu, mais c'est pour montrer qu'il y a une évolution, là, quand même. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. On ne dit pas comment on fait pour se réconcilier. Simplement, on sait qu'il y a du changement. Mais on va voir comment il peut y avoir du changement. Ensuite, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Ça, c'est typiquement le système judiciaire américain. C'est-à-dire que si vous voulez éviter de vous retrouver dans une prison new-yorkaise, il vaut mieux que vous négociez avec la partie adverse. Ce qui se passe dans 90% des cas.
Mais si tu négocies, ça veut dire que tu acceptes que tu as fait une bêtise. Voilà.
Ouais. Mais dans la mesure où tu as fait la bêtise, je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas le reconnaître.
Tout à fait.
Par contre, si on ne l'a pas fait, on a le droit de plaider innocent, ou non coupable en l'occurrence. Mais dans ce cas-là, on va au procès, logique. Il faut que le droit soit dit. Il faut qu'il y ait un débat contradictoire, etc. Mais, et puis effectivement, certains, quoi qu'innocents, plaident coupables parce qu'ils savent que de toute façon, ils ne s'en sortiront pas. Les procédures ne seront pas en leur faveur. Le système judiciaire américain, maintenant, on l'a bien sous les yeux. On sait que l'argent a sa part dans la justice américaine. Hein. Si vous avez les moyens, bah, vous pouvez écraser la partie adverse. Bon. Donc, l'idée est que si on... Ouais. Si vous vous accordez promptement avec votre adversaire, avec celui qui est contre votre justice, bon, eh bien, en fait, ça vous évite de rentrer dans le cadre de la justice. Et quelle est la différence entre l'accord, la réconciliation et la justice ? Eh bien, c'est que la réconciliation, elle est de l'ordre du don, la justice, elle est de l'ordre de l'échange. C'est-à-dire que là, on le voit à la fin, hein, je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant ou quelle que soit la monnaie que vous voulez. Il y a une logique de l'équivalence. Et vous vous souvenez, avec Ricoeur, on avait vu que justement le pardon, c'est ce qui permettait de sortir de l'échange. C'est-à-dire un prêté pour un rendu. Le pardon, c'est ce qui, en quelque sorte, permet de briser la dette, pour reprendre une formule d'Olivia Bell. Voilà, une rupture. Et parce qu'il y a une rupture, il y a un déséquilibre. Et le déséquilibre, c'est ce qui permet le mouvement, en fait. Ce qui autorise un pas de plus. Alors, la logique du changement, c'est celle qui est capitale pour la réconciliation. Et je pense que c'est pour cela qu'on a souvent du mal, à froid, à comprendre comment des gens qui ont été victimes ont pu pardonner la mort de leurs enfants, crimes, etc. C'est parce que, c'est ce qu'il faut retenir de là aussi, c'est que nous, on n'a pas le contact physique. Ici, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis vient présenter ton offrande. C'est-à-dire que les familles, elles sont, à condition qu'elles soient dans un rapport physique, dans un rapport de communication, elles sont dans un rapport de changement. Nous, on théorise, mais il n'y a pas la passion, justement. Et sans la passion, ça ne marche pas. 2 Samuel 12. Il y a David qui est roi d'Israël. Il y a la guerre. Et David se croit un peu tout permis. Hein. Et il voit un peu plus loin une jeune Bethsabée toute mignonne, pleine de charme. Il se dit, je suis David le roi, j'ai le droit. Tout est pour moi. Bon bref, il couche avec Bethsabée qui est mariée avec un homme qui s'appelle Uri, un soldat. Et donc Bethsabée tombe enceinte. Et alors, David, qui est prêt à affronter le réel, dit, bon, bah, dans ce cas-là, quand Uri rentre, tu couches avec lui et on dit que c'est lui le père. Bon. Uri est un homme plein de probité, il rentre et comme il est au service de son roi, il dit, non, on va faire lit à part, le repos du guerrier, c'est le repos au service du roi, etc. Il n'y a pas d'alibi, quoi. Et puis ça recommence. Du coup, David, qui n'est pas en manque de solution, dit « Bon, bah, très bien, je suis le chef des armées, donc je vais l'envoyer au front, on va le faire tuer et on n'aura pas de problème avec lui. » C'est ce qui se passe. Bien. Donc, voilà. Vous voyez que déjà, à l'époque, il y avait des magouilles pas tristes. Hein. Chapitre 2 Samuel 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. On est juste après. Nathan vint à lui et lui dit... Il raconte une histoire, juste une histoire. Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Alors Nathan dit à David, « Cet homme, c'est toi. » Il a été plus que mal à l'aise. Ce qui en ressort, c'est le psaume 51. Ça, c'est 2 Samuel 12. Le roi, c'est avec Salomon. Ce qui en ressort, c'est le psaume 51. Le plus beau texte de repentance qui soit, certainement. C'est-à-dire que, on pourrait dire, avec la philosophie du langage, que Nathan, le prophète Nathan, est dans la pragmatique du discours. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire pour faire changer David. Et David va se repentir. Et il va prendre Bethsabée comme épouse, etc. Enfin bon, voilà. Bon, peu importe. Mais la suite, ce qui compte, c'est que si David n'est pas destitué de sa fonction, etc., s'il continue à avoir l'agrément de Dieu, en quelque sorte, c'est aussi parce qu'il y a du changement. Et la réconciliation est possible. Il a fait ce qu'il y a de pire. Hein, je veux dire, il y a adultère, crime, avec intention de donner la mort, tout. Enfin bon, voilà. Et il n'est pas exécuté pour autant. Alors, moi, je pense que les textes bibliques ne sont pas à suivre pour gérer la société. Hein. Mais les textes bibliques sont utiles pour essayer de voir quels sont les mécanismes qui nous font fonctionner individuellement, éventuellement en communauté, et puis tracer un peu des perspectives. La perspective, c'est que il ne peut y avoir de réconciliation qu'à la condition qu'il y ait changement. L'autre exemple, on ne va pas le lire maintenant, mais vous avez le texte en tête, c'est Genèse 32. Il y a Jacob et Ésaü qui sont deux frères, et Jacob a piqué la bénédiction de son frère quand ils étaient jeunes, en se faisant passer pour lui. Donc il y a abus de biens sociaux, etc. Enfin bon. Donc ils se séparent, et puis un jour, leurs destins vont se recroiser. Et donc Jacob se dit, Ésaü va vouloir se venger, bien évidemment. Du coup, il envoie quelques cadeaux pour essayer d'adoucir un peu les choses. Il met un peu les femmes, enfants, etc. à l'écart, avec un peu de troupeau. Puis il va pour aller au-devant de son frère. Mais avant cela, il va passer une nuit à se battre avec quelqu'un dont on croit comprendre que c'est Dieu ou manifestation de Dieu. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au terme de la nuit, quand Jacob demande d'être béni par celui avec lequel il a combattu, il comprend bien que c'est Dieu, eh bien, en guise de bénédiction, il change de nom. Et on lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, on t'appellera Israël, parce que tu as combattu avec Dieu. Et au fond, je crois que... Et après, donc, il va à la rencontre d'Ésaü. On ne doit pas être très fier. Ésaü se jette à son cou, il s'embrasse et il pleure. Et donc, c'est la réconciliation. Je veux dire, en plus, il y a des pleurs. Et c'est le signe que ce n'est pas simplement la diplomatie. Voilà, il s'est passé quelque chose. Pourquoi il s'est passé quelque chose? Parce qu'en fait, il y a du changement. C'est-à-dire que Jacob est mort. C'est-à-dire que celui qui avait floué Ésaü n'est plus. Et c'est au fond à cette condition-là qu'il peut y avoir la réconciliation. Si le criminel reste le criminel, ben forcément, ça ne peut pas se réconcilier, sauf à être masochiste, sauf à vouloir que l'histoire se répète. Donc il ne peut y avoir de réconciliation, effectivement, qu'à la condition qu'il y ait eu du changement humain, voilà, que la matière humaine ait changé. Et là, elle change, et c'est manifesté par le nom qui change. Donc l'identité de la personne change. L'individu a changé, oui. C'est-à-dire que du coup... Le pardon qui est « je te reconnais comme supérieur au crime que tu as commis » est attesté par le fait que la personne, effectivement, manifeste le fait qu'elle n'est plus la même. Dans un autre registre, c'était aussi le discours de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, en disant « j'ai changé ». Vous savez, il y a eu beaucoup de discours sur cette thématique du changement, notamment en disant que sa vie personnelle, les coups qu'il avait reçus, les difficultés qu'il affrontait, je crois qu'il voulait exprimer le fait que ça l'avait rendu plus humain, en fait. Oui. Donc, il y a des discours de changement comme ça qui permettent la réconciliation ou la conciliation. Oui. Voilà. Donc, ceci pour vous dire que dans la thématique du pardon, la réconciliation, à mon avis, c'est ce qui vient comme pour sceller le processus. Au fond, ce n'est pas le pardon que l'on recherche, c'est la réconciliation. La perspective, elle est dans l'ordre de l'harmonie. Et le pardon, en fait, c'est le processus qui permet à terme la réconciliation. Parce que finalement, souvent, il y a des demi-pardons qui sont « bon, je le pardonne, mais je ne vais plus le voir. Hein? Je le pardonne, je ne vais plus l'entendre parler. Je fais comme s'il n'existait pas. » Bon, c'est un pardon qui est peut-être tout à fait authentique, mais au fond, pourquoi ça nous dérange, pourquoi ça ne va pas? Parce qu'en fait, nous, notre perspective, c'est la réconciliation. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est un seul peuple.
C'est ça le royaume.
Ouais. Ouais. Un seul peuple.
Et pour ça, il faut du temps.
Je crois qu'il faut de l'action. Je crois qu'il faut se réconcilier avec son frère. Il ne faut pas attendre que ça aille mieux. Parce que le temps n'existe pas.
Oui, parce que ça n'ira pas.
Donner du temps au temps, c'est la meilleure façon pour que rien ne change. Et il faut que ça change. Quand on est sous le choc, il faut d'abord penser à soi, parce que pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi. Et au fond, que se passe-t-il ici? Va te réconcilier avec ton frère. Eh bien, il faut réconcilier les identités. C'est-à-dire que la personne qui a été blessée a besoin de se réparer, elle a besoin de guérir.
Oui, alors là, il faut du temps quand même.
Il faut de l'action. Il faut des étapes. Ben, ça ne se fait pas instantanément, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'attendre pour que les choses s'améliorent. Parce que quand on attend, en fait, ça pourrit.
Oui, ça, je suis d'accord.
Mais c'est très difficile de faire réconcilier des gens qui n'ont pas envie de se réconcilier.
Ben, c'est qu'en fait, il n'y a que les gens qui sont concernés qui peuvent se réconcilier. Alors, on peut être facteur d'amélioration, on peut être facteur de cohésion, on peut faire en sorte que les gens se marient, même des fois, ça arrive, mais... Voilà. Oui, vous voulez une dernière intervention?
Moi, je trouve qu'il y a par exemple un exemple. Mettons qu'une femme ou un homme ait un conjoint qui soit alcoolique. On peut lui pardonner, mais on peut se réconcilier avec lui que si l'autre est décidé à aller aux alcooliques anonymes.
Mais le pardonner de quoi?
Bah, de tous les problèmes qu'il cause avec son alcoolisme.
Ah oui, mais là, c'est que... C'est important de savoir quels sont les torts. Parce que si vous dites ce qu'il cause à cause de son alcoolisme, est-ce que c'est justement lui qui agit ou pas? Est-il responsable au sens juridique du terme? Et pénal, à la limite. C'est-à-dire que pardonner quelqu'un pour son alcoolisme, c'est quelque chose qui ne va pas forcément de soi. Enfin, je veux dire, pardonner quelqu'un... Ouais. Donc, c'est les étapes préliminaires aussi qui sont à prendre en compte, vous voyez.
Ça, c'est un...
Ouais.
Une maladie mentale, l'addiction,
il faut qu'il y ait du changement. Bon, la prochaine fois, on se voit pour la radicalisation de tout ça, c'est-à-dire le pardon au quotidien. Le pardon quotidien, le pardon de chaque instant, oui. Donc c'est l'ultra-radicalisation. C'est le parti radical chrétien, là. Allez, au mois prochain.